Green Business avec Suez Environnement. Parce que s'engager pour la planète est une belle entreprise.
Green Business, le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business.
Bonjour, bienvenue dans Green Business, l'émission 100% durable de BFM Business. Pour cette dernière émission de 2011, avant les best-of, revenons sur les villes durables. Bouygues Immobilier passe à la vitesse supérieure et crée une structure d'accompagnement des collectivités dans les projets éco-urbains. Découvrez la première solution collaborative au service du développement durable, Eli Carbone. Notre chronique ISR, ce mois-ci le reporting d'entreprise. Enfin, le mécénat d'entreprise à travers l'association ELA et toujours nos chroniqueurs habituels. En matière de green business, Bouygues Immobilier passe à la vitesse supérieure et devient un acteur à part entière des villes durables. C'est ce qu'on va voir avec Christian Grelier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur innovation et développement durable de Bouygues Immobilier. Alors, pour rappeler les chiffres et les enjeux de la ville durable, en 2050, 70% de la population mondiale vivra en ville. Alors, évidemment, il y a des enjeux environnementaux, la raréfaction des ressources, le réchauffement climatique aussi, des enjeux économiques et sociaux. Donc, c'est tout ça, la ville de demain. On le sait que la France mise beaucoup sur les éco-quartiers. Et vous, le groupe Bouygues Immobilier veut créer et a créé une véritable structure d'accompagnement des collectivités dans tous ces projets éco-urbains.
Tout à fait. Je peux même être plus précis, c'est en France, c'est 75% de la population en 2020, donc l'échéance est encore plus proche.
Voilà, je parlais mondialement,
Donc notre idée, c'est de dire qu'on peut plus construire les villes comme on l'a fait jusqu'à maintenant, en construisant des plots, un bureau par-ci, un des logements par-là, mais en ayant une approche globale de la ville, où on traite l'ensemble des paramètres d'une ville pour qu'elle soit plus agréable, plus fluide, et qu'elle soit économe en ressources. Je pense qu'on va en reparler. C'est un enjeu important, puisque on va plus construire des villes à l'extérieur des villes actuelles, mais on va densifier des villes. Donc il va falloir être beaucoup plus économe et essayer d'être efficace, comme on l'est aujourd'hui dans les bâtiments. Vous savez qu'on a conçu un bâtiment énergie positive qui produit plus
d'énergie. Green Office, qui est à Issy-les-Moulineaux.
Voilà, on le fait également sur les logements. Maintenant, l'idée, c'est de le faire au niveau du quartier. Et on comprend tout de suite qu'au niveau d'un quartier, quand les gens sont dans les logements, ils ne sont pas dans les bureaux, donc on peut équilibrer à la fois la consommation et la production entre les logements et entre les bureaux.
Alors, cette structure dont je parlais, c'est Urban ERA, et il y a plusieurs déjà enjeux et sujets majeurs qui sont développés, évidemment des choses qui vont devenir concrètes. Il y a du côté de Lyon et aussi à Issy-les-Moulineaux, c'est Issy Grid, alors qui a été lancé officiellement, c'était en mai de cette année, et là on passe vraiment, on va dire, à la vitesse supérieure. Et ça va se concrétiser. Bon, pas encore tout de suite, mais ça va se concrétiser.
Alors c'est vrai que Urban ERA, c'est plus de la théorie, c'est de la pratique, puisqu'on a la chance d'avoir deux collectivités qui nous ont fait confiance. Effectivement, vous avez cité Lyon, Lyon Confluence, un projet qui s'appelle Ikari, ça veut dire lumière en japonais. C'est un lot de plusieurs bâtiments dans le centre du nouveau quartier de Lyon qui sera à énergie positive et qui consommera 60% de moins que le même îlot si on l'avait fait normalement. Ça va être un lot exemplaire, une opération exemplaire en Europe. Et il y a même des partenaires japonais qui ont fait de ce lot un exemple pour eux. Et puis la deuxième opération... Même avant Issy Grid, c'est une autre opération qu'on a gagnée. Alors, cette fois, c'est un vrai quartier, c'est à Strasbourg, c'est derrière le Parlement européen. On va remplacer aujourd'hui, sur un terrain où il y avait un parc d'exposition, on va faire un vrai quartier d'affaires avec du logement, des bureaux, un théâtre. Et l'ensemble sera énergie positive. Donc ce qu'on a fait au niveau d'un bâtiment, on va le faire au niveau d'un quartier. Donc les enjeux, vous avez compris, Urban ERA, il y a quatre enjeux. Il y a la mixité. La mixité au niveau d'un quartier, ça lui permet d'être un quartier beaucoup plus vivant. Quand vous avez que des bureaux, que des logements, les commerces ont du mal à vivre, etc. Mmh. Donc cette mixité permet d'avoir beaucoup plus de vie à l'intérieur des quartiers. Et puis surtout, ça va permettre de mutualiser des ressources. On a parlé d'énergie, mais c'est également vrai pour les parkings. On construira moins de parkings puisque ces parkings sont indifféremment utilisés par les bureaux ou par les logements. Donc c'est vraiment une approche qui permet d'optimiser à la fois au moment de la conception, mais pendant toute la durée de vie. Alors, on va prendre des engagements, ce qui est un peu nouveau. Il y a beaucoup d'éco-quartiers qui ont été faits avec un banc en bois et puis une piste cyclable. Et puis, quelques années après, on avait des petits soucis de vie dans le quartier. Là, on va prendre des engagements avec les collectivités pour que, sur la durée, ces quartiers respectent les engagements qu'on a pris au moment où on les a conçus.
Et c'est intéressant, d'ailleurs, ce que vous dites, Chris Rangrelier, parce que souvent, on s'est posé la question de ces éco-quartiers, de se demander si c'était pas des sortes de ghettos, on va dire des très beaux ghettos, tout bien aménagé, des bâtiments HQ, etc., mais finalement qui ne s'intègrent pas vraiment. Et l'idée, c'est vraiment d'aller à l'encontre de cette idée-là et vraiment d'intégrer ces nouveaux et voir que ça soit finalement une ville globalement autant que possible. On sait bien que le renouvellement du parc, hein, il prend du temps, mais finalement que ça soit véritablement intégré dans la ville.
Exactement. C'est vrai que les premiers écoquartiers, c'était un petit peu des Fort Boyard écologiques au milieu de la ville. Donc, on a fait une étude d'ailleurs avec Mediascopie, hein, sur l'attente des collectivités et des habitants sur ce qu'était leur attente d'une ville de demain. Donc, c'est une ville durable. Et ce qu'ils nous ont justement fait remonter, notamment comme attente, c'est qu'ils voulaient être connectés. Donc, à la fois connectés au monde, donc avec de la fibre optique, etc., pour avoir accès à Internet un peu partout. Et puis, ce qu'ils nous ont demandé aussi, c'est connecter à la vie locale. Hein, donc, régénérer le lien avec le reste de la ville et régénérer ce que on a un petit peu perdu, c'est le bistrot en bas de l'immeuble.
Le commerce de quartier, donc
ça va être connecté au monde, mais avoir la proximité. Hein, donc, y a effectivement cette fluidité, hein, avec le quartier existant. On y tient beaucoup compte. On a un projet d'ailleurs à Bordeaux qui s'appelle Ginkgo, où dès la conception, les associations, les personnes qui sont déjà installées autour du quartier sont intégrées dans la vie locale. On soutient les associations sportives, justement pour créer le lien et que ce quartier n'arrive pas comme un nouveau vaisseau dans l'existant, mais que la vie est déjà pris corps avant que les habitants arrivent.
Et pour Ici Green en particulier, donc l'objectif, c'est pour 2013, c'est ça, c'est 1600 logements, hein, sur environ 12 hectares avec un écoquartier HQ qui serait le premier écoquartier HQ aux portes de Paris.
Tout à fait. Alors dans les enjeux, on a parlé d'Urbanera, il y a un enjeu énergétique.
Oui.
Et les collectivités, c'est bien, mais est-ce que vous pouvez nous montrer comment tout ça fonctionne? Donc, vous savez que entre le moment où on construit un quartier et le moment où il sort de terre et où il est livré, il se passe un petit peu de temps, quelques mois. Donc, on a dit, on va se prendre un quartier existant qu'on connaît bien, qui est le quartier d'ici les Moulineaux, que les Parisiens connaissent bien, hein, quand on passe, c'est juste avant d'arriver à BFM.
Voilà, ouais, exactement, vers la porte de Versailles.
Voilà, donc où il y a du bureau, des commerces, des logements, et on va montrer dès cette année, dès 2012, la façon dont on peut piloter un quartier au niveau énergétique. Donc, on le fait pas seul.
Parce que oui, c'est ça. Pris. Voilà, c'est que vous travaillez quand même avec 8 acteurs industriels majeurs, Alstom, hein, vous avez ERDF, TDE, voilà. Microsoft, Schneider Electric, Steria, Total. Enfin, voilà, bon, vous êtes tous engagés dans cette démarche.
Privé-public, donc sous l'initiative également de la ville d'ici, avec à sa tête André Santini, hein, qui est moteur sur tous ces sujets-là. On y associe effectivement des grands champions industriels en France, que sont Alstom, Schneider, vous les avez cités, également ERDF et EDF, ils sont incontournables.
Bien
et
sûr.
On veut trouver avec eux des modèles qui permettent d'inventer l'énergie urbaine. Et puis viennent se greffer depuis quelques semaines des startups, hein, des startups ICN, des startups qui sont installées ici, mais pas que, qui vont nous amener des choses très très pointues.
Et comme quoi l'innovation aussi, voilà, en matière de green business, on a besoin des startups et les grands groupes ont besoin aussi de ces startups.
Nous on croit que tout ce monde complexe se dessinera que si très en amont on associe toutes les compétences privées, publiques, des grosses entreprises, hein, qui sont des champions dans ces domaines-là, donc il faut qu'on se développe tout ça en France, et puis des petites entreprises, des petites startups qui ont des savoir-faire très pointus qui viennent compléter ce qui nous manque des fois dans les grands groupes.
Et ce qui vous manque, et justement c'est ça qui est intéressant, hein, Bouygues Immobilier, c'est que vous évoluez totalement dans votre métier. Là on est même plus loin que la construction, vous devenez véritablement un opérateur urbain, donc c'est totalement une autre façon de voir votre métier.
Voilà, tout à fait. Jusqu'à présent on construisait des bureaux, des logements, donc on était promoteur, on prenait un terrain et on livrait une opération terminée. Maintenant, on va devenir opérateur urbain, c'est-à-dire qu'on va rester apporter des nouveaux services aux élus, aux collectivités, et également à nos clients. Et on va essayer de leur faire vivre dans la durée et les opérations qu'on a pu leur livrer.
Oui, c'est ça aussi, c'est voir sur le long terme, et c'est ça aussi le développement durable. On comprendra et on suivra, hein, évidemment, dans Green Business tous ces enjeux des villes de demain et tous ces projets développés notamment par Bouygues Immobilier. Merci à vous, Christian Grelier, directeur innovation et développement durable de Bouygues Immobilier.
Merci.
Green Business, Nathalie Croisé.
Et c'est le moment de retrouver dans Green Business Arnaud Gossemont. Bonjour Arnaud.
Bonjour Nathalie.
Arnaud Gossemont, avocat en droit de l'environnement. Vous avez souhaité revenir, hein, sur le sommet mondial du climat qui s'est achevé dimanche dernier à Durban, et plus spécialement sur une décision, celle du Canada.
Oui, tout à fait. fait. Alors, vous vous rappelez que le week-end dernier, le sommet mondial du climat, qui était organisé en Afrique du Sud, à Durban plus précisément, s'est achevé sur un constat de semi-échec, c'est-à-dire que les 194 États qui étaient représentés dans ce sommet n'ont pas réussi à trouver une suite concrète au protocole de Kyoto, n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le contenu d'un accord mondial juridiquement contraignant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais ce qui retiendra peut-être le plus l'attention, c'est l'annonce pendant ce sommet mondial du climat par le Canada de sa décision de quitter purement et simplement le protocole de Kyoto, de quitter ce mécanisme notamment d'échange de permis d'émission qui avait pour but depuis 1997 justement de lutter contre le changement climatique.
Et est-ce que l'on connaît, Arnaud, les motifs précis de cette décision du Canada ?
Alors, plusieurs motifs ont été avancés par le ministre de l'Environnement canadien pour justifier cette décision très médiatique, un petit peu brutale du Canada, de quitter le protocole de Kyoto, décision qui a beaucoup ému notamment les pays en voie de développement qui s'accrochent à ce protocole qui est l'un des textes les plus fermes, les plus concrets qui existent en matière de droit climatique. Alors, premier motif, un motif économique, le ministre de l'Environnement a estimé que dès lors que le Canada n'avait pas rempli son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il risquait une amende financière très lourde, de près de 15 milliards de dollars. Bon, c'est un petit peu difficile à vérifier, mais c'est vrai que le Canada, qui devait baisser de 6% ses émissions par rapport à 1990, les a en réalité augmentées de 17%, donc le Canada n'était pas du tout dans les clous, notamment à cause de l'exploitation de sable bitumineux dans le Nord. Un motif juridique également, le ministre de l'Environnement a fait état du fait que avant que ne commence une éventuelle seconde période d'engagement du protocole de Kyoto, le Canada souhaitait se retirer. Et puis, un troisième motif qui est certainement un motif politique, le ministre de l'Environnement canadien appartient à un gouvernement conservateur qui a souhaité aussi donner des gages à l'industrie pétrolière, à des mouvements conservateurs qui remettent en cause l'utilité de mettre de l'argent dans la lutte contre un changement climatique dont la réalité même est remise en cause par certains groupes de pression au Canada. Alors il faut bien voir que sur place, cette décision du Canada de sortir du protocole de Kyoto a tout de même suscité une très vive polémique, y compris à la Chambre des communes, où des députés se sont insultés. Il a fallu effectivement intervenir pour remettre de l'ordre. Et puis également dans la presse, on voit qu'un débat fait rage entre écologistes, entre climato-sceptiques, entre conservateurs, progressistes. Bref, cette décision du Canada fait des remous, y compris dans ce pays.
Des remous, et évidemment, quelles peuvent être les conséquences de cette décision pour l'avenir et pour toute la question du changement climatique et de la lutte contre le changement climatique?
Alors, le plus important, effectivement, c'est de savoir si cette décision, au-delà du débat politique, va être compromettante pour la lutte contre le changement climatique elle-même. Alors, c'est vrai que un certain nombre de juristes le craignent, on peut le voir dans la presse. Alors, notamment, dès lors que le Canada sort du protocole de Kyoto et de ce fait s'aligne sur les États-Unis qui avaient refusé, rappelez-vous, de ratifier le protocole de Kyoto, ça fait quand même deux grands États très émetteurs d'émissions de gaz à effet de serre qui n'adhèrent plus qui n'adhèrent pas du tout même au protocole de Kyoto. Donc ça risque de fragiliser les suites de la négociation pour trouver une seconde période d'engagement à ce protocole de Kyoto. Ça démontre aussi que les grands États émetteurs sont sceptiques par rapport à ce processus international de négociation climatique multilatérale qui, quelque part, remet en cause leur souveraineté nationale. Donc c'est vrai que déjà qu'à Durban, on a eu du mal à se mettre d'accord sur le principe d'un accord mondial de lutte contre le climat, cette décision du Canada vient fragiliser encore un peu plus le processus onusien de négociation.
Merci Arnaud Gosseman et très belle fin d'année à vous. On vous retrouvera évidemment en 2012 comme tous nos chroniqueurs. On marque une première pause dans Green Business, le mécénat d'entreprise avec Ella. Ce sera dans quelques minutes sur BFM Business.
Green Business, le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business.
C'est la suite de Green Business sur BFM Business. Cette année, les entreprises ont été de plus en plus nombreuses à s'engager dans le mécénat, mais les budgets ont parfois diminué. Les domaines plébiscités par les entreprises évoluent également. C'est ce qu'on va voir avec Julie Renaud. Bonjour Julie.
Bonjour Nathalie.
Julie Renaud, directrice générale des Grid Dating, les rendez-vous de l'économie durable. Vous aviez organisé cette semaine, et vous nous en avez parlé déjà dans Green Business, la 34e session des Grid Dating, qui était consacrée au mécénat d'entreprises. Et vous avez illustré ce thème par un exemple concret avec l'association ELA.
Pour parler de mécénat d'entreprise, nous avons effectivement choisi de mettre en avant l'engagement de deux grands groupes, PPR et la Française des Jeux, auprès de l'association ELA. Je vous ai dit quelques mots déjà sur l'opération Mettez Basket en entreprise la semaine dernière. Et aujourd'hui, c'est le président d'ELA, Guy Alba, qui va nous en parler. Bonjour Guy Alba.
Bonjour.
Alors comment en êtes-vous arrivé à vous adresser aux entreprises ?
Ben, paradoxalement, c'est par l'école. Parce que nous avons, nous, une longue tradition de mobilisation des jeunes scolaires, que ce soit les enfants du primaire, collège, lycée, dans une opération qui s'appelle « Mets tes baskets et bats la maladie ». Et c'est une action qui associe sport, santé et solidarité au sein de l'éducation nationale. Une action qui marche très très fort, puisque plus de 400 000 élèves cette année, par exemple, étaient mobilisés dans cette action. Les gamins, finalement, sur le plan symbolique, prêtent leurs jambes à des enfants qui, eux, ne peuvent plus les utiliser, hein, les enfants atteints de leucodystrophie, les enfants malades.
Voilà, c'est ça, parce que vous avez été fondé en 92, c'est l'Association européenne contre les leucodystrophies, hein, pour le rappeler, donc ces maladies,
oui,
génétiques. Hein.
Ça, maladies génétiques extrêmement graves, hein, qui peuvent détruire en quelques mois le cerveau d'un enfant bien portant et qui ont des conséquences évidemment lourdes sur le handicap et sur toutes les fonctions vitales. Et donc, les jeunes se mobilisent, font sponsoriser leur effort sportif. Et c'est l'histoire des petits ruisseaux qui font les grandes rivières, puisque chaque année, ces jeunes mobilisés dans Mettez Basket récoltent 2 millions d'euros.
2 millions d'euros, donc on est parti de ces jeunes. Et comment on est arrivé aux entreprises, comme le disait Julie ?
Eh bien, ces jeunes ont des parents qui eux-mêmes sont de l'entreprise.
Oui.
Il était quand même tentant d'aller également mobiliser les adultes. Finalement, c'est les jeunes qui, cette fois, donnent l'exemple à leurs parents. Et les parents, donc, impliqués dans leurs entreprises, on s'est dit que c'était le bon moment pour aller les sensibiliser et les mobiliser au sein même de leurs entreprises dans une opération « Mettez basket », mais qui, cette fois, est adaptée au monde de l'entreprise.
Donc, au lieu que ce soit les enfants qui mettent leurs baskets, ce sont les parents dans leurs entreprises qui enfilent des baskets et un podomètre, c'est ça ?
Ah ben, en fait, le principe est simple. Hein. À l'espace d'une journée, ça sera le 7 juin 2012, la prochaine édition, chaque pas va compter. Donc, on incite à l'intérieur de l'entreprise les personnels à faire le plus de pas possible. Et donc, ça veut dire quoi ? Ben, concrètement, ça veut dire que ce jour-là, au lieu de prendre l'ascenseur, on prend les escaliers. Au lieu de téléphoner à son voisin du bout du couloir, eh bien, on va aller le voir. Au lieu d'envoyer des mails, on fait la même chose, on se déplace. Donc, ça crée un moment de convivialité à l'intérieur de l'entreprise. Il y a aussi les consignes de bonne pratique pour entretenir son capital santé qui sont prodiguées pendant les semaines qui précèdent, y compris ce jour-là. C'est une journée un peu particulière, mais qui modifie pas, on va dire, le schéma traditionnel de la journée de travail d'entreprise. On y tenait. Et donc, finalement, tout le monde peut participer à cette opération qui est relativement simple. Le matin, j'arrive à l'entreprise en basket. On prend un podomètre qui va compter les pas de l'employé, du salarié, du collaborateur. Et puis, à la fin de journée, eh bien, on restitue le podomètre. Ces pas sont comptabilisés et pour chaque pas, l'entreprise s'engage à verser un centime d'euro.
Alors, comme vous parlez on parle de mécénat d'entreprise avec vous, hein, Guy Alba, président d'ELA. Finalement, vous associez deux éléments, on va dire, qui sont de plus en plus en pointe, hein, la recherche et le sport, parce que c'est vrai que le mécénat d'entreprise évolue, hein, j'en parlais, le mécénat culturel est un peu moins important. Donc, finalement, est-ce que vous sentez que dans ce mouvement de l'entreprise, finalement, il peut y avoir de plus en plus d'engagement, en particulier pour votre association ?
Bon, je pense que c'est évident que les entreprises se préoccupent de plus en plus de leur positionnement on va dire, au sein même de leur environnement sociétal et social. Donc, ils se préoccupent de ce type de problématiques. À partir de là, il faut donner, j'ai envie de dire, l'occasion à l'entreprise de se mobiliser, de mobiliser en interne. On sait que c'est pas simple, si vous voulez. On est là sur des actions, entre guillemets, non productives, ou en tout cas non économique de l'entreprise, mais très profitable à l'entreprise dans la mesure où ça crée du lien à l'intérieur, ça rassemble autour d'une cause. Et puis n'oubliez pas que le sport reste un vecteur quand même formidable qu'on peut utiliser à l'intérieur même d'une entreprise pour mobiliser et puis pour, encore une fois, se préoccuper non seulement de la santé des autres, mais de la santé de ses propres salariés.
Donc, c'était important de réunir les collaborateurs et que l'entreprise ce ne soit pas juste le dirigeant qui signe un chèque finalement, mais qu'il emmène tous ses collaborateurs avec lui.
Ah ben, pour moi, le fait même de fédérer me paraît être le moteur d'une action comme celle-là, et en tout cas la garantie que cette action peut durer dans le temps. Alors que le SEC qu'on peut signer, bien sûr, que chaque entreprise peut signer, ben il est aléatoire, il est très fluctuant en fonction finalement des résultats de l'entreprise, alors que l'entreprise a besoin, et peut-être plus encore en période plus difficile, de souder les personnels, d'avoir cette cohésion, on va dire, sociale, et on l'obtient au travers d'événements à l'intérieur même de l'entreprise.
Est-ce que vous avez senti quand même des freins?
Non, je pense qu'il y a, surtout le frein peut-être, c'est que c'est un peu l'aventure. On ne sait pas trop où on va. L'entreprise a besoin quand même de budgéter ce type d'opération de mécénat. Évidemment, lorsqu'on dit aux salariés, allez-y, faites le maximum de pas possible, et on les comptera à la fin, et on fera en fonction du nombre de pas que vous avez réalisé.
Il y en a qui ont dû courir, non? Qui ont dû faire beaucoup trop de
pas. Bien sûr, vous avez évidemment les salariés qui sont plus sportifs que d'autres, qui ont plus d'imagination que d'autres, qui ont envie de s'engager plus que d'autres, qui font que évidemment à l'arrivée ils font plus de pas que d'autres. Mais bon, on a quand même maintenant une première visibilité puisqu'on a une première opération qui s'est faite cette année. Donc on sait, si vous voulez, en moyenne, ce qu'un salarié d'un siège d'entreprise, hein, plutôt d'une activité sédentaire, réalise dans une journée de travail normale. Et donc ces chiffres-là nous aident à, on va dire, avoir une évaluation de ce que l'entreprise va être amenée à budgéter pour financer cette journée de solidarité, de convivialité intérieure de l'entreprise.
Et combien d'entreprises se sont engagées?
Alors, nous, on voulait, si vous voulez, c'est un peu le numéro zéro de cette opération, parce qu'on voulait pas la lancer à grande échelle avant d'être sûr, on va dire, du succès de ce concept. Donc, on l'avait proposé aux entreprises partenaires qu'on connaît bien, comme PPR, comme Puma, qui est une des filiales de PPR, comme la Française des Jeux, qui nous a aidé à construire le concept et à le développer, comme Boursorama et d'autres entreprises. Il y en avait une quinzaine pour la première année, et on a surtout été agréablement surpris par l'enthousiasme et la satisfaction de toutes ces entreprises. On n'a eu aucune remarque négative par rapport au plaisir d'entreprendre cette journée MetteBasket. Donc, moi, je suis convaincu que là, on tient un concept simple, encore une fois, qui ne modifie pas le schéma de la journée de travail. Ça, c'était important. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on place cette journée en semaine, un jeudi. Et là, je pense que les entreprises rassurées vont pouvoir se lancer, cette fois, à plus grande échelle. On espère, cette année, mobiliser 100 entreprises petites, moyennes et grandes, et puis ça va aller crescendo. Vous savez, si je fais la comparaison avec MetteBasket dans les écoles, la première année, il y avait un établissement, en 94, qui participait à cette campagne. Nous sommes en 2011, il y a plus de 2000 établissements, qui participent à la campagne MetteBasket. Et je suis persuadé qu'on aura une progression plus rapide dans l'entreprise.
Donc on note, c'est le 7 juin prochain pour la prochaine édition. Toutes les entreprises peuvent participer, elles viennent sur votre site, on s'inscrit facilement.
Oui, très facilement, oui. Et puis après, on rentre en contact avec l'organisation d'entreprise. Et c'est une opération clé en main. Donc on facilite évidemment la mise en place de cette opération, qui est encore une fois simple et qui est vraiment enthousiasmante et qui plaît, qui plaît au personnel de l'entreprise qui y participe.
Voilà, donc on mettra tous nos baskets le 7 juin 2012. Oui. Merci beaucoup, Guy Alba, le président d'ELA, d'être venu dans Green Business. Merci aussi à Julie Renaud, qu'on retrouvera très bientôt.
Bon week-end.
Et on va laisser la place aux infos sur BFM Business. Comment gérer sa réduction d'émissions de CO2 avec Élie Carbone? Et puis notre chronique ISR, ce mois-ci, le reporting en entreprise. Restez à l'écoute de BFM Business.
Green Business, le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business.
C'est la deuxième demi-heure de Green Business sur BFM Business. Dans un instant, la première solution collaborative au service du développement durable, c'est Élie Carbone, mise en place par Eliadis. Mais on commence par Dominique Pialot de la Tribune. Bonjour Dominique.
Bonjour Nathalie.
Dominique Pialot de la Tribune qui revient d'Allemagne. Alors, suite à l'accident de Fukushima en mars dernier, notre voisin allemand a décidé de sortir définitivement du nucléaire. On l'a beaucoup commenté. C'est une décision donc beaucoup commentée en France. Mais comment est-elle perçue en Allemagne même?
Est-ce qu'il faut faut bien voir, tout d'abord, c'est qu'en fait, cette décision n'est pas vraiment un demi-tour comme ça a pu être peut-être perçu en France. C'est en fait dans la lignée de ce qui avait été décidé il y a déjà 10 ans. Et même si en octobre 2010, Angela Merkel avait décidé d'allonger la durée de vie des centrales existantes, ça aurait en fait abouti à une sortie totale et définitive du nucléaire aux alentours de 2023. Et là, on est sur une date de 2022, donc c'est pas très très différent. Mais malgré tout, si c'était prévisible, c'est une décision qui laisse de nombreuses questions en suspens auxquelles les acteurs apportent des réponses assez divergentes. Alors, pour mémoire, voilà quel est l'objectif. Alors, aujourd'hui, le nucléaire, c'est 22% de l'électricité allemande. Ce sont 17 réacteurs qui vont donc être déconnectés d'ici à 2022 de manière définitive. L'objectif en matière de consommation d'énergie, c'est de la diminuer de 20% d'ici à 2020 et de 50% d'ici à 2050, et d'avoir une part des énergies renouvelables de 20% de l'électricité en 2020, c'est en fait un chiffre qu'on a déjà atteint en 2011, 35% de l'énergie renouvelable en 2030 et 80% en 2050, et tout ça avec des objectifs de réduction d'émissions de CO2 de 40% entre 2020 par rapport à 1990 et de moins 70% en 2050.
Mais même en divisant à la consommation d'énergie par deux, comme vous l'avez dit, Dominique, comment fait-on pour répondre à la demande et respecter les objectifs de réduction d'émissions de CO2?
Ah oui, alors effectivement, c'est là que c'est un peu compliqué et c'est là qu'on obtient des vues assez divergentes en Allemagne. Évidemment, les énergies renouvelables sont déjà très développées. On a vu déjà 21% de l'électricité en 2011, 370 000 emplois créés dans les énergies renouvelables et des objectifs ambitieux, puisqu'on attend 80% de l'électricité produite en 2050. Mais la question qui se pose quand même, c'est est-ce qu'il ne va pas falloir, dans l'intervalle, des centrales fossiles supplémentaires? Est-ce que ce seront plutôt des centrales au gaz, mais est-ce qu'il n'en faudra pas aussi des centrales au charbon? Il y a quand même 10 centrales à charbon qui sont actuellement en cours de construction. Si on recourt à des centrales fossiles, pour combien de temps faut-il les conserver? Est-ce qu'elles devront être subventionnées pour assurer leur rentabilité alors qu'elles ne risquent de tourner que pour assurer les pics de demande? Tout ça, ce sont des questions qui font largement débat en Allemagne. Et l'autre gros sujet de débat, ce sont les besoins en matière de réseaux électriques supplémentaires. De façon générale, pour absorber d'importantes quantités d'énergie renouvelable, qui sont des énergies intermittentes, il faut un réseau plus résistant. Et là, l'éolien, surtout l'éolien offshore, qui est favorisé par le gouvernement, est concentré au nord du pays, alors que l'essentiel de la consommation se trouve au sud. En termes de réseau, il faut savoir que les 5 dernières années, on en a seulement construit 80 km. Donc il faudrait sérieusement accélérer si ces chiffres étaient avérés.
Donc ça, c'est tout le débat énergétique en Allemagne. Vous qui en revenez, est-ce qu'il n'y a pas d'autres impacts moins techniques?
Si, c'est vrai que c'est assez intéressant d'assister à ça, parce que en fait les ONG ont été tellement obnubilées pendant toutes ces années sur la sortie du nucléaire qu'on dirait qu'elles ont un peu du mal à se mobiliser sur d'autres enjeux. Alors bien sûr, elles rejettent les centrales fossiles, surtout celles au charbon, mais il va falloir aussi que de leur côté elles se mettent à faire des propositions solides sur la façon d'assurer la transition. Alors il y a une autre chose qui est frappante, alors qu'en France on parle beaucoup d'efficacité énergétique, notamment dans le bâtiment, et d'ailleurs la ministre de l'écologie Nathalie Kosciusko-Morizet vient de présenter les résultats d'une table ronde dédiée à ce sujet, en Allemagne ça a l'air d'être un point faible. Probablement que c'est un enjeu qui est masqué paradoxalement par le grand succès des énergies renouvelables en Allemagne, alors qu'en France c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'en France, on n'est quand même pas très bon au niveau des énergies renouvelables. En revanche, on parle beaucoup d'efficacité énergétique, mais c'est certainement aussi que la précarité énergétique progresse en France, ce qui en fait un enjeu social, particulièrement en période électorale, comme c'est le cas actuellement.
C'est vrai qu'on soulève souvent le comparatif entre la France et l'Allemagne. On voit finalement que tout n'est pas si rose, mais de part et d'autre aussi. Merci Dominique Pialo.
Green Business, une heure pour changer la planète.
Améliorer sa performance, c'est aussi réduire son empreinte écologique. De plus en plus d'entreprises en prennent conscience et certaines sont là et certains sont là pour les accompagner et innover dans ce domaine. C'est le cas d'Eliadis. Sylvie Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice commerciale et marketing d'Eliadis. On va comprendre ce que vous avez mis en place, une solution collaborative. On va mieux comprendre d'où c'est parti. En fait, Eliadis, c'est une société qui a à peu près 10 ans et qui est spécialisée dans la réalisation d'outils de communication et de collaboration d'entreprises. C'est parti de là pour arriver finalement à un outil au service spécialiste du développement durable.
Tout à fait. En fait, l'histoire d'Eliadis, c'est l'histoire d'une PME française qui a été créée il y a 10 ans, en 2001, en pleine crise sur le marché de l'informatique. Donc nous, notre métier, c'est l'ingénierie informatique et tout particulièrement les solutions de collaboration. Alors, les solutions de collaboration, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des solutions qui permettent à des acteurs distants dans une organisation, alors distants soit pour des problèmes de distance géographique, de distance hiérarchique, mais aussi de distance fonctionnelle. Ils travaillent sur des sujets qui ne les rapprochent pas forcément au quotidien. Eh bien, c'est de permettre à ces acteurs de communiquer, de se coordonner autour de la rédaction de documents ensemble, et puis aussi de coordonner des actions, des plans d'action autour de processus divers et variés. Alors, nos utilisateurs, les utilisateurs de nos solutions sont principalement des directeurs qualité, au sens large, ça englobe les problématiques, effectivement, sécurité et développement durable, des DRH, des directeurs de la communication, du marketing, et pour eux, nous mettons en place des solutions sur mesure. C'était notre créneau, c'est notre métier, c'est ça, c'est de concevoir des solutions sur mesure pour leurs besoins.
Et donc vous en êtes arrivé à évoluer dans cette démarche-là à travers, donc je disais, la première solution collaborative qui est au service du développement durable qui s'appelle Helicarbon, et c'est aussi venu d'une demande finalement de vos clients.
Tout à fait. En fait, ce sont les directions de développement durable qui, depuis 4-5 ans, réclament des outils pour leur permettre de piloter les missions qui leur sont confiées. Nous avons effectivement aujourd'hui comme partenaire les directions informatiques autour de ces sujets, c'est normal, mais les directions de développement durable ont identifié qu'il fallait sortir d'outils bureautiques qu'on pouvait leur mettre à disposition très naturellement, tels qu'Excel, par exemple, parce qu'elles sont dans une problématique de sensibilisation, de fédération d'acteurs au sein de leur organisation, mais aussi à l'extérieur, pour pouvoir tout simplement prouver qu'elles sont dans une logique de réduction de leur empreinte environnementale et mener des plans d'action pour la réduire.
Oui, parce que finalement, c'est très transversal, le développement durable, et ça concerne tout le monde. Et quand on parle notamment des enjeux d'un bilan carbone, rien qu'établir un bilan carbone et puis savoir après s'en servir et aller au-delà, il faut vraiment avoir des bases de données vraiment très larges.
Tout à fait. Il faut être capable d'aller récupérer l'information sur le terrain. Être capable de sensibiliser les personnes à qui on demande ces informations pour qu'elles comprennent pourquoi on les leur demande, et ensuite être capable bien sûr de gérer ces informations dans le cadre d'une démarche qui est très normée, puisqu'aujourd'hui notre outil en l'occurrence s'appuie sur le bilan carbone développé par l'ADEME et en fait respecte effectivement le protocole GHG, les normes ISO 14001, donc on est quand même dans un contexte très très structuré, mais dans un enjeu et un élan de communication et de sensibilisation et de fédération d'acteurs, parce que ces acteurs qui vont nous apporter de la donnée pour que nous soyons capables d'établir le rapport carbone, bilan carbone que beaucoup de sociétés ont de par la réglementation à faire, une fois que ce bilan carbone est établi, il faut tout simplement mettre en place des plans d'action, d'amélioration, en se donnant des objectifs et en se donnant les moyens de les mesurer. Parce que effectivement, dire qu'on fait des efforts en matière environnementale, c'est une chose. Établir des rapports, des reportings globaux et très lointains, c'est déjà pas mal. Mais le but, c'est effectivement de prouver qu'on se donne des outils pour vérifier qu'effectivement nos actions sont percutantes, permettent d'effectuer des économies. Alors effectuer des économies carbone.
Ça aussi, c'est l'un des enjeux. On fait des économies carbone, mais des économies tout court aussi. Et dans un climat, on le sait bien, c'est difficile. Là, on parle de la France qui entre en récession. Donc évidemment, il faut plus que jamais pour une entreprise aller dans cette voie-là.
Tout à fait. Les leviers aujourd'hui des entreprises qu'est-ce qui les motive pour aller dans une démarche d'empreinte carbone, au-delà de la réglementation dont j'ai parlé, évidemment, c'est bien sûr de faire des économies. On sait que réduire le bilan carbone, c'est réduire mathématiquement sa facture énergétique. Ça, c'est systématique. Et le deuxième point, évidemment, c'est de préserver ses marges et puis aussi de préserver ses parts de marché et d'aller en conquérir d'autres, parce que de plus en plus, par effet de cascade, les sociétés réclament à ce que leurs fournisseurs et leurs prestataires montrent montre patte verte, si on peut dire, et d'une façon professionnelle et suivie, avec des outils qui permettent de
prouver. C'est pour ça qu'un outil collaboratif, là aussi, est intéressant. Et aussi, Sylvie Bertrand, directrice commerciale et marketing d'Eliadis, dans Elie Carbone, il y a cet aspect, évidemment, on parle d'empreinte écologique, mais il y a aussi l'aspect social, il faut pas l'oublier. On va bientôt parler aussi dans la chronique ISR de cette fameuse loi NRE. Et là aussi, vous mettez en place aussi des outils pour intégrer aussi les données sociales. Et ça aussi, c'est important.
Tout à fait, parce qu'à partir du moment où on conçoit une plateforme collaborative et où on donne la possibilité à des acteurs de venir donner des informations, mais aussi en récupérer, puisque notre logiciel permet aussi d'échanger sur les bonnes pratiques et de valoriser ce que des acteurs localement peuvent mettre en place sur des points vraiment très très particuliers. Hein. Je gonfle mes pneus, je mets un additif dans mon carburant, je fais du covoiturage, c'est des choses de cet ordre-là. Eh bien, ça génère un échange au sein de l'organisation et ça permet aussi d'aborder des problématiques plus larges. L'environnement, c'est pas seulement l'écologie, l'environnement, c'est aussi bien sûr l'impact social des activités qu'une organisation peut avoir.
Et d'ailleurs, votre démarche a été saluée, hein, notamment par Oseo Innovation, le Centre francilien aussi de l'innovation qui vous suit, ou encore la région, le Conseil général des Hauts-de-Seine aussi qui vous suit dans votre démarche.
Tout à fait. Et puis, nous avons la chance effectivement d'avoir un partenaire technologique aussi, en la personne d'IBM qui a reconnu qu'effectivement notre solution et notre logiciel était particulièrement performant et opportun. Et on a aussi un ensemble de partenaires, bureaux d'études, cabinets de conseil qui viennent apporter toute la valeur ajoutée de leur expertise en matière environnementale, sociale et également énergétique, parce que dans la mise en place du plan d'action derrière, il faut être capable bien sûr de mener des actions opportunes, percutantes. Donc ces cabinets de conseil, nous restons sur le domaine de l'outillage informatique, de collaboration certes avec une dimension bien sûr bilan carbone structurée et habilité par l'ADEME, mais ces consultants apportent tout l'éclairage et c'est essentiel parce que nos clients aujourd'hui sont très souvent un peu perdus sur quelles sont exactement leurs obligations, qu'est-ce qu'ils doivent effectivement faire, et puis souvent ils ne valorisent pas assez ce qu'ils font. Et faire un bilan carbone, c'est l'occasion aussi de se rendre compte qu'on a beaucoup d'atouts pour à faire valoir, pour montrer qu'on est une entreprise responsable. Et c'est pour ça que c'est important de pas juste apporter un outillage d'un logiciel et puis de laisser les gens se débrouiller avec l'outil, mais d'apporter aussi tout un ensemble de prestations pour qu'ils puissent prendre en main et s'impliquer, s'approprier en fait cette démarche.
Alors, il ne reste plus qu'à découvrir la première solution collaborative au service du développement durable, Elie Carbone, donc mise en place par Eliadis. Merci à Sylvie Bertrand, directrice commerciale et marketing d'Eliadis. On marque une dernière pause dans Green Business et on va parler justement du reporting dans la chronique ISR. Ce sera dans un court instant sur BFM Business.
Green Business, le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business.
Bientôt la fin de Green Business sur BFM Business. Dans un instant, nous retrouverons notre chronique ISR. Le thème aujourd'hui, le reporting d'entreprise. Mais on retrouve d'abord Patricia Laurent de Green Univers.
Bonjour Nathalie.
Patricia Laurent de Green Univers, le site de référence du Green Business. Et on va commencer avec cette mauvaise nouvelle dans le solaire mondial. Les difficultés continuent pour les grands fabricants. On a appris cette semaine, Patricia, la faillite de l'allemand Solon.
Absolument, Nathalie. Le vétéran allemand du solaire, le groupe Solon, devient la première grosse faillite du secteur solaire en Allemagne. Alors, le groupe était en difficulté depuis plusieurs mois. Il avait fermé une usine aux États-Unis et il vient d'annoncer cette semaine, effectivement, qu'il avait échoué à conclure un accord avec ses banques créancières et de potentiels investisseurs. Et du coup, il n'a pas eu d'autre solution que de se déclarer en faillite, même si, évidemment, il espère pouvoir se restructurer à l'issue du processus et redémarrer. Alors, selon la presse allemande, il aurait plus de 400 millions d'euros de dettes, donc évidemment c'est énorme. C'est une très grosse faillite, c'est très symbolique puisque c'est la première qui frappe un grand groupe allemand coté du solaire. Solon avait été créé en 1998 et c'était le premier fabricant allemand de panneaux photovoltaïques qui s'était introduit en bourse.
Et malheureusement, Patricia, la série des faillites n'est sans doute pas terminée.
Non, absolument. Pour les analystes, Solon risque fort, au contraire, d'être la première d'une série de faillites dans l'industrie solaire allemande et européenne. Alors, ce n'est effectivement pas le seul groupe allemand qui est en mauvaise forme à cause de la chute du prix des panneaux, qui est le résultat de la concurrence asiatique extrêmement forte, notamment la concurrence des groupes chinois, qui arrive au moment même où le marché se ralentit en Europe, avec notamment la baisse des tarifs d'achat dans de nombreux pays. On en a déjà parlé à plusieurs reprises pour la France. Alors, d'autres groupes allemands sont en difficulté. On peut citer QC, Sales, on peut citer SolarWorld qui a déjà fermé deux sites, Conergy, ils sont tous également très menacés. Et l'Allemagne n'est pas non plus le seul pays concerné puisque la situation n'est pas meilleure. Aux États-Unis, par exemple, il y a déjà trois groupes solaires américains qui ont mis la clé sous la porte. Il y a Solyndra qui avait été très richement financé par le gouvernement de Barack Obama et par des fonds privés. Il y a aussi eu Evergreen Solar et puis SpectraWatt. D'autres ne sont pas en grande forme. Par exemple, le leader First Solar a annoncé cette semaine la révision à la baisse de ses prévisions pour les prochains mois. Et même les producteurs chinois, qui sont ceux qui ont alimenté cette baisse des prix hein, au départ, ont eux aussi des difficultés. Ils sont eux aussi maintenant un peu victimes de cette guerre des prix. Et selon une étude qui est parue cette semaine en Chine, la moitié des producteurs chinois de photovoltaïque auraient même déjà fermé. Et puis ben, en France, évidemment, on sait aussi que l'on est concerné par ces difficultés. Et que par exemple PhotoWatt, le seul fabricant de panneaux intégrés dans le solaire, est au bord du gouffre et cherche un repreneur.
Autre actualité hein, de la semaine, allez, on va essayer d'être un peu plus encourageant, Patricia. Dominique Pialon en parlait hein, tout à l'heure. Ce sont les annonces du gouvernement français en faveur de l'efficacité énergétique. C'était vendredi.
Oui, absolument. On va être un peu plus positif à quelques jours de Noël. Alors effectivement, la ministre de l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, a annoncé une série de mesures pour renforcer l'efficacité énergétique. Le but, c'est de rattraper le retard pris par la France. Puisqu'effectivement, l'objectif du Grenelle, c'est d'avoir une amélioration de 20% de l'efficacité énergétique en 2020. Mais avec les mesures qui ont déjà été prises ces dernières années, eh bien, on n'était pas tout à fait à cet objectif. On allait arriver à plus 17% en 2020. Alors, le gouvernement a décidé de mettre le paquet. Il y a eu une table ronde qui a duré pendant plusieurs mois avec les entreprises, des représentants des ménages, des pouvoirs publics. Et cette semaine, effectivement, la ministre a présenté les résultats de cette table ronde. Donc en fait, 27 mesures ont été retenues par le gouvernement pour renforcer donc l'efficacité énergétique. Alors on va évidemment pas toutes les citer, mais il y en a une ou deux qui vont sûrement faire parler d'elles, car elles sont symboliquement fortes et elles vont aussi générer des économies d'énergie importantes. Alors par exemple, eh bien, à partir du 1er juillet 2012, il sera obligatoire d'éteindre les enseignes lumineuses commerciales la nuit, entre 1h et 6h du matin. Ça va passer par décret, donc fini les grandes enseignes lumineuses qui brillaient toute la nuit. Et puis le gouvernement veut aussi également étudier une extinction obligatoire des éclairages extérieurs et intérieurs dans les bureaux. On le sait, il y a énormément de bureaux qui restent éclairés la nuit quand il n'y a plus personne. Eh bien, le gouvernement espère aboutir dans ce sens pour avoir une extinction obligatoire, ce qui permettrait d'économiser beaucoup d'énergie et donc de renforcer l'efficacité énergétique.
Et donc voilà, c'est la nouvelle chasse au gaspillage. Merci Patricia Laurent.
BFM Business.
Green Business consacre chaque mois une chronique aux enjeux de l'ISR, l'investissement socialement responsable. Thème aujourd'hui, le reporting en entreprise. Évidemment, avec l'émergence du développement durable, des fonds éthiques, ils sont examinés de très près par un nombre croissant d'actionnaires, de gérants de portefeuille et d'agences de notation extra-financière. C'est ce qu'on va voir avec Martial Cosette. Bonjour.
Bonjour Nathalie Croiset.
Vous êtes administrateur délégué du Centre français de l'information sur les entreprises, donc est une structure dédiée à la mobilisation sur la RSE des entreprises et l'ISR. Et vous êtes également, il faut le dire, administrateur et cofondateur du FIR, le Forum pour l'investissement responsable. Donc, je parlais du reporting. C'est vrai qu'il faut bien comprendre que véritablement, c'est la clé de voûte pour optimiser autant que possible les démarches RSE et les choix ISR aussi.
Tout à fait. Donc le reporting, bon, c'est quelque chose qui est pratiqué depuis pas mal d'années par les entreprises, qui a surtout été impulsé au début des années 2000 par une loi française qu'on appelle la loi NRE,
NRE oui.
Qui a failli être impulsé par une nouvelle loi en 2011, sauf qu'on attend toujours le décret d'application. On aura peut-être l'occasion d'en parler.
Oui, exactement, sur les perspectives.
Sur les perspectives, qu'on aura peut-être un petit peu de difficulté à être installé avant les élections, les prochaines élections présidentielles. Enfin, voilà, donc ce qu'on s'aperçoit, c'est quand même, ça a pris un petit peu de temps à démarrer. Je pense que les entreprises ont commencé à prendre un premier temps, en tout cas celles qui étaient un petit peu le plus en avance, à faire un état des lieux de ce qu'elles réalisaient en matière sociale, en matière environnementale, sur la question de son intégration dans la société. Et progressivement, on voit que la plupart des entreprises s'y mettent. Elles sont un peu obligées, en tout cas, ce qui concerne les entreprises
oui,
cotées.
Les entreprises les plus grandes et plus importantes, c'est ce qu'on sont concernées par la loi NRE dont vous parlez.
Voilà, tout à fait.
Alors justement, pour essayer de comprendre, voilà, il y a de plus en plus d'informations, mais est-ce qu'on a toujours la bonne information ?
Alors, Est-ce qu'on a toujours la bonne information? La question à se poser déjà, c'est la bonne information pour qui?
Exactement.
C'est-à-dire que c'est pas toujours les mêmes personnes.
On parlait voilà des agences de notation aussi qui ont des demandes, des actionnaires. Enfin voilà, il faut évidemment beaucoup de gens ont besoin d'être informés sur ce qui se passe dans l'entreprise.
Tout à fait. Et les agences de notation, les actionnaires, les investisseurs, le cas échéant les salariés, hein, ou les syndicats, les organisations syndicales, les partenaires sociaux, les ONG, les associations de tout ordre. C'est, je crois, quand même une certaine difficulté aujourd'hui quand même au niveau des entreprises, c'est de répondre à toutes ces demandes.
Alors Martial Cosette, hein, donc qui est administrateur délégué du Centre français de l'information sur les entreprises, vous avez mené justement une étude hein, cette année sur l'information sociale et environnementale dans les rapports annuels des entreprises. Qu'est-ce qui en ressort? J'imagine qu'il y a du bon, du moins bon. Est-ce qu'on sent quand même, hein, vous avez dit que ça commençait un peu à bouger en 10 ans, une évolution du positif et voilà des domaines par exemple où certains sont en pointe?
Tout à fait. Parmi les choses positives qu'on peut faire ressortir, il y a un certain nombre de thèmes qui commencent à prendre de la place dans les rapports, qui commencent à être travaillés, sur lesquels on aperçoit un certain nombre d'informations, qu'elles soient explicatives hein, en termes de commentaires, ou bien ce qui importe beaucoup pour la plupart des lecteurs, on dira des rapports, des indicateurs, des indications qui vont permettre de se rendre compte si oui ou non l'entreprise fait bel et bien ce qu'elle dit. Dans son rapport. Alors que parmi les thèmes qui sont maintenant de plus en plus pris en charge, il y a évidemment le thème de l'énergie, il y a le thème du climat, hein, des émissions de gaz à effet de serre, un thème comme la sécurité, tout ce qui tourne autour de la sécurité quand même sont quand même des choses qui sont de plus en plus évoquées dans les rapports, ou les questions de parité homme-femme, voilà. On a par exemple un certain nombre d'informations intéressantes. Alors je pense à si je prends par exemple la question de la sécurité. Il y a un aspect qu'on voit pas très bien, c'est la question des maladies professionnelles. Alors, on a quand même des initiatives. Prenons un groupe comme Peugeot Citroën. On va dans le rapport, on va parler des questions relatives aux différentes maladies professionnelles qu'on peut rencontrer en fonction de différentes branches, voyez, d'activité. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant.
Et alors, là où le bât blesse, on va dire, quels sont les thèmes qui sont un peu moins bien abordés?
Il y en a quelques-uns, quand même. Il y en a quelques-uns. La question de la biodiversité. Alors, c'est pas facile du tout, hein, parce que la biodiversité, comment est-ce que je vais mesurer? Finalement, c'est quoi? C'est une chose comme ça. Mais, comme 2010, c'était l'année internationale de la biodiversité, on s'attend à ce que les entreprises s'emparent un petit peu avec plus de vigueur de ce sujet. Voilà. Deux thèmes qui me paraissent
importants. Et sur d'autres aspects, peut-être, notamment celle des paradis fiscaux, l'aspect paradis fiscaux, et aussi la répartition de la valeur, hein, créée par l'argent aussi. Ça, c'est peut-être un petit peu délicat.
Oui, alors ça c'est ce qu'on met dans la partie sociétale,
c'est-à-dire
la relation
voilà,
avec
ça, voilà,
la société. En effet, même avant de parler question des paradis fiscaux, alors là c'est clair, d'abord déjà il y a différentes interprétations. Qu'est-ce qu'un paradis fiscal, hein, donc toutes les juridictions dans lesquelles il n'y a pas forcément la transparence qu'il faut, dans lesquelles il y a peut-être un certain nombre de remises, ristournes sur impôts, on pourrait dire ça comme ça. Là effectivement c'est pas très abordé par les entreprises, mais de manière plus large, qu'est-ce que l'entreprise va redistribuer dans les zones, dans les espaces où elle a réalisé un certain nombre de profits, un certain nombre de... Donc tout ça, c'est effectivement assez mal traité.
Alors sur les questions justement d'évolution, parce que vous avez dit que ça commençait à bouger, on peut se dire aussi que la loi va continuer à faire évoluer les choses. On attend la signature, hein, normalement pour le début d'année, hein, de ce fameux décret d'application de l'article 225, hein, de la loi de Grenelle 1. Est-ce que ça peut faire bouger aussi et améliorer un petit peu tout le reporting?
Bon, sur cette nouvelle loi, il n'y aura pas de transformation radicale, hein, c'est-à-dire qu'il y a déjà une loi, celle-ci devrait, on espère, remplacer l'ancienne. Qu'est-ce qui change? Un, ça va plus seulement concerner les entreprises cotées. Donc ça va multiplier par 3 ou 4 le champ, et donc je crois que c'est assez important en matière de dynamique.
Voilà, on va parler d'un passer à peu près de 400 entreprises à 2000 entreprises.
Voilà,
c'est ça,
un petit peu plus de 2000 entreprises. Ça c'est un premier point. Un deuxième point, un certain nombre d'organisations vont être amenées à vérifier la réalité des informations et en tous les cas des indicateurs qui sont proposés par les entreprises. Donc c'est important aussi en termes de confiance. Ça c'est un deuxième point. Et un troisième point, l'ensemble des informations qui sont imposées à transmettre est un petit peu plus précise, et surtout on va parler du périmètre de consolidation, ce qui avait été oublié dans la loi précédente. C'est-à-dire, est-ce qu'il fallait faire le reporting sur le siège social, sur la France, sur le monde? Voilà, c'était pas dit.
Alors si on peut prendre un peu finalement l'aspect positif, Martial Cosette, c'est finalement de se dire que voilà, le reporting, quand même, ça commence à donner de plus en plus d'informations. Il y a une ouverture. Les entreprises commencent vraiment à afficher, même si, voilà, il y a du bon et du moins bon. Mais voilà, et il y a de quoi aussi les questionner, savoir aussi un petit peu ce qui se passe dans une entreprise.
Oui, je pense qu'en l'état actuel des rapports, même si on n'est pas satisfait complètement, comme vous vous rendez compte, c'est juste à tout le moins un gisement de questionnement, un gisement d'informations qui permettent de se rapprocher, d'aller plus au contact de l'entreprise, de les stimuler, si on veut dire les choses comme ça. Ce qui manque quand même pour l'univers financier, c'est peut-être de davantage relier l'information qualitative ou extra-financière qui est proposée par reporting avec des informations plus financières. Quels sont les impacts? Quels sont les risques qui vont être évités ou réduits par justement une politique de développement durable au niveau de l'entreprise?
En tout cas, on comprend mieux avec vous tous les enjeux du reporting. Merci Martial Cosette, administrateur délégué du Centre français de l'information sur les entreprises et également cofondateur du FIR. C'est la fin de Green Business pour Noël et le Nouvel An. Je vous propose de retrouver tous les meilleurs moments de l'émission. Évidemment, il y a toujours le site bfmbusiness.com pour nous écouter et nous podcaster. Très belle fête de fin d'année à l'écoute de BFM Business.
Green Business avec Suez Environnement. Parce que s'engager pour la planète est une belle entreprise.